Leadership conférence.
1, 2, 1, 2. 1.
Gross. C'est pas gross. C'est du café. Il est fort ton café ce matin.
Ouais, t'aimes bien ça?
Ouais, j'aime bien le café fort. Qui a un vrai goût de café, quoi.
Pas du lait.
Non.
Puriste du café.
Ouais, tu sais que j'ai commencé café au lait.
Ouais.
Et puis je crois que je suis devenu puriste. Et après, je me suis remis au café au lait. Et là, ça fait des années maintenant que je trouve même plus ça très bon, en fait, le café avec du lait dedans.
Comment est-ce que... Parce que tes goûts ont changé autant que ça, parce que...
Je sais pas.
Parce que c'est différent, bah, hein, mais...
Bah, tu sais, comme le café, c'est un goût que tu acquiers, quoi, avec le temps.
Un peu comme le vin.
Ouais, je crois que, ouais. Je suis devenu plus sensible au goût du café. Mon appréciation du café s'est raffinée. Et donc, ça fait que je suis plus sensible à ce que j'aime et à ce que j'aime pas.
Ouais, ok.
Tu vois, c'est pareil avec le vin, quoi.
Est-ce qu'il y a des types de... Est-ce qu'il y a des cafés, genre, dans certains pays que t'aimes ou que t'aimes pas?
Non, j'en suis pas arrivé là encore. Non. J'en suis pas arrivé là. J'ai l'impression que ma petite presse à café a fait du café avec un goût similaire.
Non.
peu importe d'où ça vient, j'ai l'impression. Mais il faut juste que j'en boive plus, quoi, c'est tout.
Bienvenue au podcast Refaire le monde en 20 minutes. Je m'appelle Nicky.
Je m'appelle Nathan.
Ce podcast est destiné à... On parle de tous et n'importe quoi.
De tous et n'importe quoi.
Voilà, là, mes mots. On parle de tout et n'importe quoi sur ce podcast. Chaque semaine, on décortique un sujet particulier. Cette semaine, nous allons discuter de où tu es allé, Nathan, il y a quelques semaines. Tu es parti à une conférence en Angleterre qui s'appelle la Leadership Conference de Alpha.
Ouais.
Et c'est pour une des raisons pourquoi on a eu des épisodes manquants pendant les quelques dernières semaines.
T'es en train de dire que c'est de ma faute, c'est ça?
Ouais, c'est complètement ta faute. Du coup, on voulait faire cet épisode où tu nous dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que t'as appris de cette conférence, pourquoi tu conseillerais ou tu ne conseillerais pas d'aller à cette conférence. Nathan, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce que Alpha et qu'est-ce que HTB et qu'est-ce que cette conférence où tu es allé.
Ok, alors Alpha, c'est un parcours de découverte de la foi qui a été commencé dans une église à Londres qui s'appelle HTB, Holy Trinity Brompton, c'est dans les quartiers super chic de Londres. Et ça a été commencé par un gars qui s'appelle Sandy Millar, qui était à l'époque le leader principal de l'église. Et puis très vite, il y a un jeune homme qui s'appelle Nicky Gamble, à l'époque c'était un jeune homme qui a pris cet outil et qui l'a développé avec Sandy. Et puis en fait, aujourd'hui, des millions et des millions et des millions de personnes dans plein de pays différents du monde ont fait Alpha, ont découvert Dieu à travers Alpha, sont devenus chrétiens à travers Alpha. C'est un parcours de découverte de la foi chrétienne autour d'un repas, avec la possibilité pour tout le monde de se positionner par rapport aux enseignements exactement comme ils le veulent. Les gens ne sont pas appelés à se conformer à un enseignement précis. Ils se rendent compte qu'en faisant ça, en laissant aux uns et aux autres l'opportunité de dire tous leurs doutes, toutes leurs craintes, de cracher toute leur haine, même parfois sur les chrétiens, dans une église, envers d'autres chrétiens, devant d'autres non-chrétiens, c'est parfois un moyen extraordinaire pour permettre aux gens justement de se rapprocher de Dieu. Et parfois, les gens les plus haineux, les plus froids et les plus durs se convertissent les plus radicalement et deviennent parfois ensuite les personnes les plus en feu dans les églises. Donc c'est un outil qui est vraiment génial et l'église HTB a vraiment fait un job super de permettre à ce que ça existe à l'étranger, à ce que d'autres pays le prennent et utilisent cet outil. Et voilà, et donc depuis plusieurs années, ils font une conférence qui s'appelle la Leadership Conference. Au début, c'était vraiment pour Alpha et pour HTB, mais depuis, c'est devenu une sorte de... Bah, je vais utiliser ce mot dans chacun de nos podcasts. C'est devenu une sorte de grande mec de l'univers, on va dire, un petit peu leadership chrétien, surtout en Europe. Hein, aux États-Unis, ils ont d'autres leadership conférences, etc. Mais tu as des gens de plein de pays différents. C'est pas seulement anglophone, nécessairement, hein. Il y avait une bonne trentaine de Français qui étaient là. Il y avait des Allemands, des Suédois, des Finlandais, plein de trucs différents. Donc tout ça, c'était plutôt cool. Et en fait, j'avais beaucoup entendu parler de la leadership conférence. J'aime bien Alpha, je connais beaucoup des gens du bureau Alpha en France. On a utilisé Alpha par le passé. Je suis fan de Alpha, mais pas au point de me dire, ouais, il faut que j'aie cette leadership conférence et tout. Ça m'avait toujours l'air plutôt cool, mais pas, enfin, tu vois, m'ont bâti relationnellement, tu vois. Donc ce qu'on fait à Newground, moi, ça me suffit en termes d'apport. Mais cette année, j'ai reçu un mail de la part d'une sorte de mini-conférence qui se faisait en parallèle de la conférence qui s'appelle le Global Leadership Network, GLEN. Et ils m'ont dit, voilà, en gros, on rassemble plein de jeunes leaders qui sont des gens qui sont entre guillemets des leaders phares dans les nations desquelles ils viennent, avec en commun le fait qu'ils ont tous en dessous de 40 ans, quoi. Donc ça va être du très très haut niveau, on va dire, en termes de conversation, en termes d'inspiration. Et il y avait un panel d'orateurs qui était là plus ou moins spécifiquement pour cette conférence-là. Et on allait être une centaine de personnes venant de plein de pays différents dans le monde, dans une même pièce avec accès privilégié à tous ces orateurs, ces leaders. Et là, Rebecca l'a reçu, elle m'a dit, Nathan, il faut que tu ailles à ce truc, quoi. Et j'en ai parlé avec l'équipe de Fireplace qui m'ont dit, ouais, c'est bien que tu y ailles et tout. J'avoue que moi, je n'étais pas plus convaincu que ça d'y aller, mais pour une fois, Rebecca m'encourage à aller à une conférence de 4 jours. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, je le fais. Et j'y suis allé un petit peu avec on va dire des attentes mitigées, quoi, en me disant, ça va être cool, ça va être une conférence, quoi. Je vais être là, je vais m'asseoir, je vais recevoir un magasiné, et puis je vais repartir. Et voilà, j'aime bien les conférences, mais ça a de moins en moins de sens pour moi d'aller à une conférence où il n'y a pas une vraie connexion relationnelle avec les gens. Mes attentes ont été surmontées à 1000%. Enfin, c'était extraordinairement bon. Et donc, je vais vous dire un petit peu les différentes choses que j'ai apprises, ou les choses que j'ai reçues. Il y a des choses qui m'ont encouragé. Il y a des choses sur lesquelles Dieu m'a repris. Et il y a une chose particulière où j'ai senti que Dieu m'a mandaté. Et les deux choses principales où j'ai senti Dieu m'encourager, c'est que d'une part, on participe aux grandes sessions aussi de la leadership conférence. C'était Craig Groeschel qui était l'orateur principal de la grande conférence. Et son premier message était juste extra. Il a pris le passage où Paul dit j'ai connu les 40 coups moins 1 plusieurs fois, j'ai fait des naufrages, tout ceci, tout cela. Mais en plus de ça, chaque jour, j'ai la charge des églises et des saints qui sont là, qui pèsent sur moi. Et il disait juste, les gars, le leadership, c'est dur, quoi. Il va dire, mais j'ai connu tous ces trucs-là, mais c'est presque comme si ça culmine avec ce truc, mais en plus de ça, il faut que je dirige des églises, mais c'est vraiment dur, faut pas qu'on se voile la face sur le fait que ce truc-là, c'est dur. Et on ne peut pas se cacher du fait que c'est dur. Et il a dit, et donc considérez ceci, un point, et il l'a répété plusieurs fois au cours du message, mais un point, est-ce qu'il se peut que la différence entre là où vous en êtes et là où Dieu veut que vous soyez est la quantité de douleur que vous refusez d'endurer pour arriver là où Dieu veut que vous soyez? Et il y a plusieurs choses où je me suis dit, genre c'était quand même une sorte de message où je sentais Dieu en train de me dire, bravo bon et fidèle serviteur, tu t'es montré fidèle en peu de choses, je vais t'en accorder de plus grandes, parce qu'il y a plusieurs situations dans notre vie à Rebecca et à moi au cours des dernières années où on a dit, bah, ça va être douloureux. Mais Dieu te demande de faire quelque chose et on a dit, bah, ok, Dieu nous demande clairement de le faire et donc il faut qu'on le fasse. Notre déménagement, le fait d'implanter une église en partant de là où on était avant, tellement, tellement de choses, on aurait pu juste se dire, tu sais quoi, je vais juste pas faire trop de cas de ce que Dieu me demande de faire, je vais être passif par rapport aux choses que Dieu me demande de faire, et je vais juste laisser de l'eau couler sous le pont, et puis au bout d'un moment, je vais continuer dans ce que je faisais auparavant. Et puis ça passera, quoi. Ce sentiment que Dieu est en train de me parler, ça passera au bout de quelques années. Et ça va être trop douloureux d'entrer dans les choses que Dieu me demande de faire. Et je sentais Dieu en train de me dire, tu es là où tu es aujourd'hui et tu vis les choses que tu vis aujourd'hui parce que tu as accepté la douleur qui vient avec le ministère. Mais je sentais en même temps Dieu en train de me challenger, en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un ou deux trucs dans ta vie maintenant où ça va être très douloureux? et que tu refuses d'avoir certaines conversations, tu refuses de prendre certaines décisions, tu refuses d'aller dans différentes choses parce que tu as peur et tu as surtout peur de la douleur que ça va te causer ou même que ça pourrait causer à d'autres. Et donc tu n'es pas en train vraiment de diriger, d'être un leader. Et je te là. Ah, oh, Seigneur, arrête de me parler de ça. Je veux pas. Mais c'était un rappel qui était salutaire. Donc ça, c'était bon à ce niveau-là. Il y a un autre truc vraiment Dieu m'a encouragé à fond, c'est que dans Glen, il y avait des panels d'orateurs. Il y avait un panel en particulier qui était juste extra, en fait. Celui qui a le plus parlé aux gens. C'était un gars qui s'appelle John Tyson. Un gars qui s'appelle Mark Sayers, qui est un Australien, et une troisième personne. Ah oui, Pete Hughes, d'une église à Londres. Et tous les panels avaient des sujets différents. Et ce panel-ci, c'était « Soyez une église qui met l'accent sur une vie spirituelle forte. » C'est votre meilleur outil en termes de leadership. Et ça m'a tellement encouragé, parce que c'est celui qui a résonné chez le plus de gens. Ça semble vraiment être quelque chose qui résonne au sein de notre génération. On ne va pas être là à chercher à bâtir un big truc ou à prendre être très très fort sur faut qu'on ait toutes les techniques de leadership bien cadrées, bien ancrées, tout ça c'est bien, c'est important, ou bien on va servir de la technologie, ou tous ces trucs là qu'on pourrait dire c'est ça le nec plus ultra d'être des bons leaders aujourd'hui. Non, juste soyons des gens qui cherchons à conduire nos églises dans une relation spirituelle plus forte avec Dieu. Et de voir tous ces leaders qui sont là, des gens qui font des trucs extraordinaires, mais tous nos cœurs étaient en train de fondre, quoi. Et je me disais pareil, Dieu en train de nous dire bravo Fireplace, parce que vous pourriez mettre l'accent sur tellement de choses, mais vous mettez l'accent d'abord sur avoir une relation forte avec Dieu, chercher Dieu, puiser en Dieu, creuser en Dieu, vivre la louange à fond, des prédications qui mettent l'accent sur Dieu avant tout, pas sur les techniques de je sais pas quoi, de management, de sentez-vous bien, ou guérissez dans votre identité, toutes ces choses-là, c'est bien, mais Dieu, quoi. Mettez juste l'accent sur Dieu, toutes ces choses, ça vient. Et donc ce panel-là, c'était à nouveau un sentiment que Dieu est en train de me dire, vous êtes sur le bon cap, bravo, etc. Il y en a d'autres qui m'ont challengé, comme j'avais dit, le premier message de Craig Groeschel m'a vraiment puissamment challengé. Il y avait un point qui m'a inspiré à fond, c'était juste en fait le vocabulaire qu'utilisaient Nikki et Pippa Gumble par rapport à leur église. Ils disaient, on a une grande porte d'entrée dans l'église, on appelle ça Alpha.
Ouais.
Et on a une grande porte de sortie de notre église, on appelle ça l'implantation d'église.
Ouais.
Et ça, je trouve ça fou, tu vois. De dire, on a à la fois une énorme stratégie pour que les gens rentrent dans l'église, on veut que l'église grandisse, qu'il y ait de plus en plus de gens qui passent le pas de la porte de HTB, mais on veut pas seulement que les gens rentrent dans le bâtiment, rentrent dans la maison, on veut aussi qu'une fois qu'ils ont été dans la maison, qu'ils soient propulsés pour en sortir. Et ça m'a tellement inspiré, tu vois. Je pense que on parle beaucoup presque de notre porte de sortie à Fireplace. Mais je me dis aussi, je serais intéressé qu'on parle puissamment aussi de notre porte d'entrée. Et bon, comme le disait Manu il y a de ça quelques semaines, on a pris une année pour poser des fondations à Paris, dans le quartier autour de Montparnasse, et maintenant c'est une année pour tout décalquer,
ouais.
Comme disait Manu. Donc on est en train de parler maintenant de comment est-ce qu'on peut avoir de plus en plus de gens qui rentrent et qui rentrent et qui rentrent, et parler de Jésus aux gens autour de nous. Je pense qu'on va faire de l'évangélisation dans la rue, ça va être une de nos grosses portes d'entrée à l'église. Je me demande si Alpha aussi n'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Mais vraiment avoir cette réflexion sur comment est-ce qu'on a une porte d'entrée, mais aussi comment est-ce qu'on a une sorte d'accélérateur de particules au sein de l'Église, quoi. Comment est-ce qu'on accélère les gens pour que tous se sentent puissamment fortifiés, qu'on ait un moyen, comme disait Dave il y a quelques jours aussi quand il était avec nous à l'Église, Dave Holden, quand il disait « Les gens qui veulent grandir en Dieu, on a un chemin pré-tracé pour qu'ils y rentrent et ils vont grandir parce qu'on a un chemin pré-tracé qui est là pour que les gens se donnent, grandissent en Dieu. » Mais il faut que ça conduise à une porte de sortie, quoi.
Ouais.
Et je suis tellement encouragé qu'on est déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on implante l'année prochaine. Et au-delà de l'année prochaine, qu'est-ce qu'on prépare pour la suite aussi. Je trouve ça vraiment cool.
C'est ça.
Mais je trouvais ça juste génial comme façon d'en parler, quoi. Si l'église est une maison, on a une grande porte d'entrée, on a une grande porte de sortie. Donc ça m'a vraiment fait kiffer, ça m'a beaucoup inspiré.
C'est une bonne chose, c'est une bonne image. Moi, j'adore ce que HTV font en termes d'implantation d'église. Je pense qu'en Angleterre, c'est... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas HTV, c'est une église anglicane, hein. C'est une église qui fait partie de tout ce système anglican, mais avec une vraie... particularité, un style qui est différent, qui est très un style beaucoup plus charismatique que l'anglicanisme traditionnel. Et moi, j'adore tout ce qu'ils font et toutes leurs implantations. Pour moi, c'est plus que Newgrounds, c'est peut-être quand je suis dans leurs églises, c'est une église où je me sens à l'aise et à la maison. Parce que bah, j'ai un peu grandi là-dedans, mais pour moi, c'est juste. C'est une belle famille d'églises qui est vraiment, vraiment cool et qui fait des superbes, superbes choses.
Et tu le sens, la culture qu'ils ont.
Ouais, c'est ça.
Là-bas où c'est très, très puissant en fait. Et ça, c'est pareil, ça renforçait encore. Quelle est notre culture, quel est notre ADN. Et pareil, c'est quelque chose que je commence à voir à Fireplace, tu vois. De dire des gens, ça fait un an et quelques qu'on est avec eux. Et alors qu'au début, c'est dur, quoi. On vient d'arrière-plan complètement différent, des attentes parfois différentes, et petit à petit, au contact les uns des autres, nos attentes évoluent, et les uns et les autres, et notre culture est en train d'être formée, et les uns et les autres. Mais ce qui se passe, c'est que dès le début, on avait cette volonté de juste s'aimer profondément les uns les autres, et d'être en relation les uns avec les autres, d'être connectés les uns aux autres. Et je vois ça de plus en plus, et c'est de plus en plus facile, alors que nos attentes deviennent centrées, canalisées autour d'une vision qui est de plus en plus claire et définie, mais aussi que nos relations deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus ancrées. Moi, je me dis, alors que JD et Muriel sont en train d'être propulsés vers commencer quelque chose, il n'y a pas moyen que d'ici 2-3 ans, on se sente comme des étrangers.
Ouais.
Parce que on a cette profondeur de relation, de compréhension, de connexion, on est en contact en semaine, par WhatsApp, par Messenger, et ça va continuer, quoi. Et ce truc-là des relations et de la mission ensemble, je le vois au sein de Newground, je le vois aussi au sein d'HTB, et je pense que ce que tu disais sur HTB, c'est anglican, mais en fait c'est un mouvement apostolique au sein de l'église anglicane, en fait. Ils sont presque en parallèle du fonctionnement anglican, dans le sens où ils transcendent ce truc où il y a des évêchés, des diocèses, eux ils le transcendent, ça. C'est presque comme si Nicky Gumbel est un évêque, mais qui se soumet aussi aux évêques dans les différents contextes où ils sont. Mais les gens qui vont implanter autre part, à Brighton, à Norwich, etc., sont autant, voire plus, en connexion avec Nicky Gumbel et tout l'univers HTB qu'ils le sont avec leurs évêques locaux. Donc ils se soumettent aux évêques, parce que c'est ce que l'église anglicane demande. En fait, leur inspiration, leur nutrition, le terreau dans lequel ils baignent, c'est tout ce qui sort, tout ce qui est produit par HTB, quoi. Et ce que je kiffe aussi, c'est juste, tu vois en fait un mouvement qui a fonctionné ensemble depuis maintenant des années, et beaucoup aussi de leurs trucs de plus en plus sont en train de dire, mais comment est-ce qu'on peut impacter la société? Donc il y a un jeune homme qui était là à Glen, qui a dit, en gros, voilà, moi je bosse ici à HTB, mon job, c'est de chercher à créer des ressources pour connecter à Dieu, tout l'univers du business, des médias, des finances, etc. à Londres. Il est embauché par l'église pour faire ça. Un de ses grands trucs, c'est qu'il a un podcast qui s'appelle la London Leadership Podcast, ou un truc comme ça, et il est même pas en train de dire que c'est un truc chrétien, quoi. Mais il est embauché par l'église pour faire ça, pour équiper des leaders à Londres, pour que les leaders londoniens soient informés et inspirés par les principes du royaume, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ça, je trouve ça, mais c'est énorme, quoi. Tu vois, il y a presque aucun retour pour l'église. Mais ils disent, c'est pas grave, on va embaucher ce gars à plein temps pour qu'il fasse ça. Et ça, je trouve ça trop énorme, quoi. Cette vision et ce truc, c'est que moi, je me dis, un jour, en tant que mouvement, c'est là où il faut qu'on aille. On est en train de développer encore des choses, petit à petit, on met en place des trucs, mais un vrai mouvement apostolique, c'est un mouvement qui, un jour, c'est se dire, mais notre base église est tellement forte qu'elle a un rayonnement très puissant sur le monde extérieur, que les gens s'en rendent compte ou qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Et il y a un dernier truc qui était là pour moi, c'était comme une sorte de mandat où Dieu m'a parlé puissamment. C'était pendant un des panels, et c'est le panel où je me sentais le moins concerné, en fait. C'était un panel sur l'église digitale. Et donc, il y avait le gars qui est responsable de l'application YouVersion de la Bible qui était là. Et il y avait aussi un gars qui s'appelle Michael Todd, qui est le prédicateur de loin le plus en vue, le plus regardé sur sa plateforme YouTube. Sur tout YouTube, c'est le prédicateur qui est le plus vu et de loin. Si vous avez jamais vu ses messages, c'est de la dynamite. C'est un gars qui ressemble un petit peu à Will Smith. Il parle un petit peu comme parlait Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Il est super cool, et ce qu'il dit aussi, c'est aussi très profond. Ça vaut vraiment le coup d'être regardé, d'être écouté. Et en gros, les deux parlaient de à quoi ça ressemble de faire l'église dans un monde digital. Et tu vois, moi, je suis là en mode, mais non, mais l'église, c'est des connexions réelles dans la vraie vie avec les vrais gens et tout. C'est pas l'église si c'est en dehors de ça. Oui, on peut connecter, on peut toucher des gens. Moi, j'avais tout ce truc où moi, c'est pas du tout mon univers, en fait. C'est pas du tout mes valeurs. Et ils m'ont mis, en fait, un gros punch en montrant, mais en fait, ben, en fait nous, on se voit... Oui, on a des contextes d'église locale, hein, donc l'application YouVersion vient de l'église Life Church, appelée Transformation Church dans le Oklahoma. Et ces deux disent, mais on a une église locale, mais nous, notre plateforme web, d'une part, on voit ça comme une église faite différemment. Et le gars, l'intervieweur posait la question, il dit, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ou une chose neutre? Et Michael Todd a dit, non, c'est une chose nouvelle. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore. Et si on ne le fait pas, on ne saura jamais si c'est bon, mauvais ou neutre. Donc je préfère investir cet espace, me débarrasser au fur et à mesure de autant de choses mauvaises qu'on peut, de réussir à racheter autant de choses neutres qu'on peut, et de réussir à maximiser toutes les choses bonnes qu'on peut. Et je me disais, ça d'une part, c'est brillant comme façon de le voir. Et il a dit, les amis, à chaque fois, en tant que chrétien, on a 20 ans de retard. On investit un espace seulement quand on est sûr que ça va être 100% bon. Et il y a plein d'espaces finalement qu'on n'investit jamais parce qu'on arrive bien trop tard, et quand on l'investit, le monde est passé sur autre chose. Donc pourquoi ne pas être à la pointe? Pourquoi ne pas même aller plus loin? Il se posait la question, mais quel est le nouveau truc qu'on peut faire pour permettre à ce que le monde entier soit connecté par l'évangile avant même que le reste du monde cherche à connecter leurs produits avec le monde à travers ces outils-là? Et ça m'a mis profondément au défi. Et il disait, il se comparait à des prédicateurs de rue. Il disait, le prédicateur de rue n'est pas dans l'église locale, mais il est là en train de parler à des gens qui ne mettront jamais les pieds dans une église locale, ouais. dans une église physique. Mais il a dit, par contre, les meilleurs prédicateurs de rue se positionnaient toujours à deux pas d'une église locale qui valait le coup que les gens y aillent et dans lesquelles les gens de la rue seraient accueillis. Et il a dit, nous, notre enjeu, c'est en tant que plateforme en ligne ou de plateforme numérique, digitale, on doit faire tout ce qu'on peut pour créer autant de ponts que possible avec les églises locales physiques. Donc il y a des fois où c'est pas possible. Tu auras des gens en Sibérie qui n'ont pas une église locale à proximité et on peut pas les baptiser. Ok, bah tu sais quoi, ils sont quand même sauvés s'ils sont pas baptisés. Bien sûr, le mieux c'est qu'ils seraient baptisés, évidemment, évidemment. Mais je préfère les atteindre avec l'évangile, que leur âme soit sauvée, même s'ils n'ont pas d'église locale, que de juste dire non, on va pas les atteindre parce qu'on peut pas les atteindre avec 100% de ce qu'on pourrait. Largement qu'ils aient l'essentiel, et puis le reste, ça se trouve, c'est eux qui vont partager l'évangile autour d'eux en Sibérie, et puis eux, ils vont créer une communauté de disciples, et eux, ils vont pouvoir baptiser les gens et être baptisés par des gens là-bas, des gens que eux auront convertis, mais touchons le monde, quoi. Et donc, ils étaient très puissants là-dessus. Et là où j'ai ressenti un petit peu le mandat que Dieu m'a donné de façon personnelle, c'est quand Michael Todd a dit, je suis allé à Facebook, et les gens à Facebook m'ont dit, que d'ici quelques mois ou quelques années, je ne sais plus c'est quand l'échéance, mais 85% des contenus les plus regardés sur Facebook seront des contenus vidéo. Pas des textes, pas des images, il faut que ça bouge. Ouais. Et là, j'ai senti l'esprit un petit peu me dire, Nathan, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Est-ce que tu vas laisser ce train-là partir, ou est-ce que tu vas accepter de faire des disciples à travers de la vidéo? Et puis on a des gens dans l'église, on parle de vidéo depuis un petit moment, mais je sentais qu'il faut juste qu'on commence à se dire, ok, on va créer des petites vidéos, on va créer des contenus courts, simples, impactants. On va faire des disciples de gens dans notre église, au-delà de notre église, des gens qui ne seront jamais touchés par l'église en développant des vidéos. Ouais. Et là-dessus, je me dis, il faut qu'on s'y mette, et il faut qu'on s'y mette maintenant. Donc, je suis en train de créer un plan pour que ça se mette en place. Et vous allez voir des vidéos qui sortent de Fireplace, du contenu court, impactant, qui va vraiment faire des disciples de gens au-delà de la rencontre du dimanche, parce qu'il faut qu'on aille au-delà de la rencontre du dimanche dans notre acte de discipulat. Et ça va se faire digitalement, ça va se faire numériquement. Et c'est important qu'on investisse cet espace. Moi, je me sens personnellement mandaté pour ça. Mm-hmm. Donc, voilà.
Dernière question. Est-ce qu'on devrait tous aller à Leadership Conference l'année prochaine?
Oui, on devrait tous aller à la Leadership Conference l'année prochaine. En tout cas, moi, je vais y aller plus ou moins tous les ans. J'ai senti que c'était un contexte où moi, comme je suis dans un contexte où je suis beaucoup en train de ressourcer et d'équiper les gens, même au niveau de notre famille d'église, ouais. Où je me dis, moi, il faut qu'il y ait un contexte dans lequel moi aussi, je suis nourri, équipé, étiré. Et je pense que c'est bon pour notre famille d'église qu'il y ait des gens qui aillent dans ce contexte-là, des gens qui sont plus avancés que nous, et il faut le reconnaître. On n'a pas toutes les réponses, il y a des gens qui qui pousse, on va dire, le truc beaucoup plus loin. Bien sûr, d'y aller avec discernement, de pas tout accepter, de pas tout prendre. Et ils le disent d'ailleurs au début, hein. Ils disent, mais il y a des choses que vous allez entendre ici. On est en train de servir un panel extrêmement large de l'Église chrétienne. Donc il y a des choses où vous allez vous dire, ouais, ça, je le reprends pas, je l'emmène pas avec moi.
Ouais.
Mais il y a des choses clairement à chaque fois à prendre avec soi, à revenir. Donc moi, j'y irai tous les ans. Et puis bah, si on en a d'autres qui veulent venir, qu'on se mette en contact, qu'on prenne un hôtel, qu'on loge ensemble et puis qu'on s'amuse là-bas, quoi.
Merci beaucoup, Nathan, pour ce récap. On va terminer l'épisode là. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts pour encourager et partager ce podcast avec les gens, pour encourager les gens à nous écouter, parce qu'on est très important. C'est très intéressant.
Ah, mais c'est clair.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous trouver sur Twitter et maintenant on te retrouve sur Facebook.
Exact.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.